je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous bénis tous les jours, mais cette bénédiction trouve son apogée quand nous nous retrouvons dans la communion fraternelle en ta présence. Tels tes disciples autour de toi, c'est un moment privilégié où chacun de nous, nous menons notre vie quotidienne, mais nous décidons de nous retrouver ensemble en toi, dans une communion parfaite en toi. Nous attendons à toi. Seigneur, c'est une communion qui n'a pas d'égal. Je te prie de veiller sur ton Église afin que cette communion continue, perdure, jusqu'à arriver à la communion finale, celle de ton Église avec toi. Je remets entre tes mains ces moments que nous allons passer autour de ta parole. Que tu la fasses parler par ton Esprit Saint, qu'elle parle à chacun de nous, à commencer par moi-même. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nos rituels, pour chacun de nous, dans l'objectif et de nous faire grandir ensemble jusqu'à arriver à cet état d'homme fait, d'homme femme faite à la stature de Christ. Merci de te glorifier dans ton Église. Merci de te glorifier dans nos cœurs et qu'ensemble, nous puissions témoigner de toi dans notre vie de tous les jours. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un passage que j'avais intégré dans un long passage la dernière fois. C'était le chapitre 6, verset 1-33. Et ces derniers jours, quand je commençais à préparer le message, il m'a paru essentiel de revenir sur 6 versets du chapitre 6. Surtout, j'aurais vu les circonstances. Ça peut parler de chacun de nous, à moi le premier. C'est celui du retour aux sources. Nous partons, mais nous revenons. Et j'espère que ce passage soit un témoignage les uns vers les autres. Chacun le vit différemment. Ceux qui sont là le vivent d'une manière, je dirais, de proximité dans leur famille. Ceux qui viennent d'ailleurs le vivent comme un déchirement, parce qu'on se coupe de sa famille, on se retourne. Et ça me parle encore plus dans ces moments difficiles que nous vivons. Dans notre famille, je parle de ma famille d'origine, la famille au Maroc, que malgré les apparences, il y a une souffrance qui se vit actuellement dans ma famille, avec la souffrance de mon père, qui souffre dans son corps. Il a l'âge qu'il a, donc il est né en 44, donc il a 81 ans, avec qui mon frère et moi, nous n'avons plus de contact depuis 9 ans, mon frère encore peut-être un peu plus. Et voilà, sur son lit d'hôpital, il désire revoir ses enfants. Le Seigneur est bon. Je dis toujours que l'âge est une sagesse. On arrive à un certain âge, des fois, on peut être fort, tout ce qu'on veut, mais la faiblesse nous rattrape. Nous rattrape-t-elle qu'elle touche notre cœur. Et elle touche notre cœur tel qu'on se remémore beaucoup de choses, au point d'avoir le désir de voir ces deux garçons et une sœur qu'il n'a pas vue depuis longtemps. J'espère du fond du cœur que ce que vit mon père actuellement soit un chemin de repentance, mais un chemin où le Seigneur peut lui parler, parce qu'il a entendu parler du Seigneur, il a entendu le témoignage du Seigneur, il a entendu ses deux fils en tant que chrétien. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mon frère, il est en route. Il sera ce soir, normalement, au Maroc, au chevet de mon père, pour lui manifester notre amour, mais en même temps, on va faire certainement un WhatsApp pour que je puisse lui manifester encore mon amour. Vous voyez ? Par la suite, je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'en sais rien. J'irai, j'en sais rien. Voilà, ça reste ouvert et que le Seigneur guide toute chose. Je reviens à notre message, à notre lecture dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Je vais le lire, ce passage. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Voilà ce passage que je veux partager avec vous. Un passage où, dès le premier verset, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Ce n'est pas anodin. Ce verset bref, court, peut-être anodin pour nous, qui ne veut rien dire, peut-être des fois. Ce verset bref n'est qu'un simple déplacement géographique, on va dire. On le ramène à ça, pourtant il renferme un enseignement spirituel très profond. Il dit une réalité spirituelle, quand on le lit, lentement, quand on prend le temps. Ça veut dire, là où Jésus est, ses disciples le suivent. Jésus part dans sa patrie, les disciples le suivent. Ils ne l'attendent pas, ils le suivent. Ce n'est pas seulement une marche physique, c'est une école de la vie. C'est l'école du Christ. Suivre Jésus, c'est entrer dans son chemin. Il va dans un terrain hostile, mais les disciples ne se dérobent pas. Ils le suivent. Ils ne le suivent pas seulement dans sa gloire, mais aussi dans ses souffrances. Ils savent que Jésus va dans sa patrie, il sait qu'il est rejeté dans sa propre patrie, mais les disciples le suivent. Ils le suivent dans ses souffrances, ils le suivent dans ses rejets, ils le suivent dans ses combats. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivent. Ce passage est d'une richesse spirituelle profonde qui m'a parlé. Souvent, cherchons à suivre le Seigneur quand tout va bien. Là, les disciples l'ont suivi dans sa patrie où ils savent qu'il sera rejeté, méprisé. Ce que Jésus va vivre à Nazareth, et d'ailleurs Nazareth, c'était un endroit géographique rejeté même par les Juifs, les érudits. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a de bon qui vient de Nazareth? Rien. C'est parce que Nazareth est en Galilée. Le mépris, l'étonnement, le rejet, c'est ce qui attend Jésus. Ses disciples verront tout cela, ils sont spectateurs, ils sont témoins de ce que Jésus va vivre. Et ce qu'ils vont vivre, c'est une parole prophétique pour eux. Car plus tard, ils vont vivre la même chose. Donc suivre Jésus dans ses souffrances, c'est une préparation d'accepter de souffrir pour Jésus. Car suivre Jésus, ce n'est pas marcher derrière un Messie triomphant qui ne fait que du bien. Un Messie triomphant aux acclamations humaines. Non, suivre Jésus, c'est porter sa croix. C'est apprendre, c'est affronter l'opprobre. Apprendre le rejet, c'est marcher dans la vérité, même quand elle dérange. C'est cela, suivre Jésus. Il y a dans l'école de Jésus, quand on se convertit et on le suit, le Seigneur nous apprend tout cela. C'est l'apprentissage de l'école du Seigneur. Dans plus tard, dans Marc chapitre 8, verset 34, Jésus nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En fait, il était en train de dire à ses disciples, « Vous voulez me suivre? Oubliez votre réputation. » Oubliez votre notoriété dans la société. Venez souffrir avec moi. Souffrir, porter sa croix. Souvent, on veut plaire dans la société, dans sa famille. On ne veut pas qu'on soit rejeté. On veut qu'on nous aime. On cache même sa foi. On l'adapte. Le Seigneur nous dit, si vous voulez me suivre, portez votre croix et suivez-moi. Et vous allez suivre le même chemin que moi, je vais suivre. Ainsi, suivre Jésus, c'est apprendre à passer par là où il est passé. Non pas seul, mais le privilège que nous avons, c'est qu'en passant ce chemin, il est avec nous, Il est en nous par son Esprit Saint, dans la communion de ses souffrances et dans l'espérance de sa résurrection. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, nous lisons « Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » La parole de Dieu est claire. Mes frères et sœurs, si on vous a appris, si on vous a prêché un évangile, que tout va bien, jusqu'à se dissimuler et chercher à ne pas payer le prix, ce n'est pas un évangile. L'évangile, c'est accepter de suivre le chemin du Seigneur en acceptant de payer le prix. Pas comme des kamikazes, je ne parle pas de ça. C'est seulement laisser le Seigneur nous préparer dans une communion avec lui et nous prépare, lui, à souffrir avec lui. Ne cherchons pas à souffrir, mais laissez-le nous préparer à souffrir avec lui. C'est lui qui nous prépare à accepter la souffrance, mais nous ne la cherchons pas. Jésus revient à Nazareth, sa ville natale. Ce retour aux sources est un message, j'ai envie de m'adresser à moi le premier et à tous ceux qui sont issus de pays étrangers. Ce retour aux sources, loin d'être anodin, a une portée profondément symbolique et spirituelle. Il nous rappelle que quelles que soient les transformations que Dieu opère en nous, nos racines, j'insiste sur nos racines, font partie intégrante de notre identité. Dans un monde ou dans un pays où l'on pousse à renier ses origines pour mieux s'intégrer dans la société dominante, en appelant ça intégration, assimilation, que sais-je, le Seigneur est en train de nous dire, ne reniez pas vos racines, mes frères et sœurs. C'est une réponse à nos politiques. Dans un monde où l'on pousse à renier ses origines, ça fait mal au cœur. Jésus nous enseigne qu'il est possible et même nécessaire de garder, de retourner vers les siens, non pour nous valider le regard qu'il porte sur nous-mêmes, mais pour témoigner de la transformation que Dieu a opérée. N'ayons pas peur, honte de nos origines. Et si le Seigneur nous appelle de retourner vers nos origines, alors nous leur témoignerons de la transformation que le Seigneur a fait dans notre cœur. Fierté de nos origines, mais témoignage de la transformation du cœur. Ce retour n'est pas une régression, mais un acte prophétique, un témoignage vivant d'une identité restaurée par Dieu. Il invite chacun à affronter les tensions entre son passé et son appel, entre les attentes humaines et la réalité de l'œuvre de Dieu, entre sa foi et les exigences de sa tradition, de ses traditions. Il y a une tension, une souffrance que ceux qui, en fait, qui ont quitté, qui étaient dans une origine, qui ont quitté, qui retournent, qui peuvent l'exprimer, témoigner. Tellement c'est dur, mes frères et sœurs, qu'on ne pouvait pas l'imaginer et les mots ne suffisent pas à l'exprimer. Jésus, bien qu'innocent, est entré pleinement dans notre condition humaine déchue, jusqu'au rejet, à la souffrance et à la mort. Pourquoi ? Pour nous en sauver, pour nous sauver. Le retour aux sources est un acte, je dirais, chargé de sens. Mais ce retour aux sources, il est accompagné d'un cœur nouveau. Il ne s'agit pas de renier ses racines. Et quand j'entends des fois renier ses origines, non. Fier de l'être, mais témoigner avec un cœur nouveau. Mes racines, je les aime, mais j'y retourne avec Jésus dans mon cœur. Voyez, ça, c'est le message du Christ. Pas le message que j'entends souvent qui font mal. Oubliez vos origines, oubliez vos racines. Montrez que vous êtes assimilés dans le pays. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes des citoyens. Le Seigneur nous donne un autre enseignement. Et ça, c'est le message que le chrétien doit véhiculer autour de lui. En revenant à Nazareth, Jésus épouse pleinement notre condition humaine. Non pas dans le péché, mais dans la vulnérabilité du rejet, du mépris et de l'incompréhension. Jésus a accepté de retourner dans sa patrie pour être rejeté, pour le montrer à nous, chrétiens. Nous allons vivre la même chose. Alors regardez comment je me comporte. C'est comme ça qu'il faut regarder le Seigneur, au lieu d'aller dans la confrontation. Ce qu'il a vécu ce jour-là à Nazareth est le prélude de sa croix. Ça a commencé là, dans le rejet, dans sa propre patrie, dans sa propre famille, auprès de ses propres frères et sœurs. Avant de mourir pour nous, Jésus a souffert pour nous, dans sa chair, dans sa dignité, dans son humanité, mes frères et sœurs. Nous qui nous plaignons sur notre fierté, notre dignité, tout ça, sachant que Jésus a souffert cela avant nous. Il est venu chez les siens et les siens l'ont point reçu. C'est ma famille ne m'a pas reçu. Je sais que le Seigneur, il est allé chez les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Et pourtant, il est allé annoncer la bonne nouvelle, témoigner, il les aimait. Dois-je rendre le mal pour le mal? Ce n'est pas le message du Seigneur. Là, Jésus devient chacun de nous, dans nos expériences les plus douloureuses. Aïe, 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 être mal compris dans sa famille. Et on lutte pour que je suis mal compris. Être méprisé, être rejeté, c'est une douleur. Le Seigneur l'a vécu. Et il porte cela jusqu'au bout, sans se détourner de son appel. Pour illustrer mes propos, je vous cite trois figures. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais je vais en citer trois. Pour éclairer ce retour vers nos sources, vers nos racines. Je vous cite Moïse, Joseph et le fils prodigue. Rapidement. Moïse revient parmi les siens en Égypte, porteur d'un appel divin pour leur délivrance. Mais il est d'abord rejeté par eux. Même après les miracles, le peuple murmure souvent contre lui. Moïse revient chez les siens, même rejeté, mais il est revenu chez les siens, transformé, mes frères et sœurs. Transformé. Et c'est là le secret. Retournons chez les nôtres, transformés. Laissons l'Esprit Saint nous transformer. Et là, nous témoignerons de la communion avec Jésus. Il n'est plus simplement un enfant hébreu sauvé des eaux ou un prince d'Égypte. Il est l'envoyé de Dieu. Et cette autorité nouvelle dérange. Quand on revient transformer, frères et sœurs, nous dérangeons l'humain et les esprits malins. Joseph, maintenant. Joseph, comme vous connaissez l'histoire, il est rejeté par ses frères. Oui, sa famille. Ses frères. Vendu comme esclave. Exilé. Mais dans les desseins de Dieu, il transforme le mal en bien, notre Créateur. Joseph revient comme sauveur pour eux. Au moment de quoi? Au moment de la famine. Dieu suscite la famine pour restaurer Joseph, qui devient un témoignage. Joseph est transformé. Il est d'abord méconnu, puis reconnu. Dans Genèse, chapitre 45, verset 4, voilà comment il se présente, Joseph. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. » Il rappelle une réalité, mais il l'ajoute. « Je vais vous donner à manger, je vais vous sauver. » Voyez le témoignage d'amour, issu d'une transformation, issu d'une épreuve, et Dieu maîtrise toutes choses. Joseph est rejeté d'abord, mais revient avec puissance et grâce. Et non pour se venger, pas du tout. Pour exprimer un amour et pour sauver. Voilà le message chrétien encore une fois pour nous. Le fils prodigue. Il s'agit d'un retour dans une relation brisée. Oui, une relation brisée familiale. Encore une fois. Ce fils prodigue revient non pour enseigner ou pour régner, pour réclamer un droit. Non, il est revenu, mes frères et sœurs, repentant. Il est revenu dans la repentance. Il a brisé les liens familiaux et il revient dans l'humilité. Pourtant, il est accueilli avec amour par le Père. Mais n'oublions pas qu'il était rejeté par son frère aîné, qu'il n'était pas trop d'accord, qu'il revienne comme ça. Moi qui étais toujours là, pourquoi lui? Oui, il y a toujours de la réticence et du rejet quand on revient avec un cœur transformé, un cœur repentant, un cœur dans l'humilité. Ce tableau montre que le retour, même sincère, peut révéler la dureté du cœur de ceux qui sont restés, tout comme le retour de Jésus à Nazareth, met en lumière l'incrédulité de ses compatriotes. C'est un enseignement pratique pour nous. Frères et sœurs, il y a un enseignement à retenir ce matin. c'est de laisser le Seigneur nous transformer par un Esprit Saint sur la base spirituelle de la croix. Et quand nous sommes transformés, nous ne sommes plus les mêmes. Nous retournons, mais nous transmettons le témoignage, l'amour. Revenir à ses sources, c'est souvent affronter les regards figés, les identités que les autres nous imposent, les incompréhensions, voire le rejet. Mais ce retour peut aussi être l'occasion de témoigner de ce que Dieu a fait en nous. Cœur transformé qui témoigne de ce que le Seigneur a fait de nous, nous rendant l'amour tout le temps que l'amour aux autres. Dieu nous envoie parfois là où nous avons été connus dans notre faiblesse, pour y porter un message nouveau, une mission différente. Notre fidélité à Dieu peut provoquer l'incompréhension ou le rejet, même et surtout des plus proches. Ce n'est pas l'approbation des hommes qu'il faut chercher, mais l'obéissance à Dieu qui doit nous guider dans la paix et dans l'amour. Vous voyez, ce simple verset peut dire beaucoup de choses. Alors, passons aux versets 2 et 3. De lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Là, j'ai mis comme un questionnement, une remarque pour questionner quand connaître empêche de voir. Ou plutôt, j'aurais dit, quand on pense connaître, ça empêche de voir. Pourquoi? Les habitants de Nazareth sont stupéfaits devant la sagesse qui émane de Jésus. Mais très vite, cette admiration laisse place au doute, au mépris même. Pourquoi? Parce qu'ils croient le connaître. C'est ça le problème. C'est que sa famille croit connaître Jésus. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils disent, voilà, c'est ça Jésus, mais ça ne peut pas être autre chose que ce que sa famille pense de lui. Alors s'il se présente autrement, là ça pose problème. Ils l'ont vu grandir. Ils connaissent sa famille, son métier. Comment celui qu'ils ont toujours considéré comme le fils du charpentier pourrait-il incarner quelque chose de divin? Juste une petite réflexion pour nos frères et sœurs catholiques qui prennent la virginité éternelle de Marie. Il est question bien des frères et sœurs de Jésus. Donc on sait que Jésus, il est issu d'une famille nombreuse, de minimum 6 personnes, comme je l'ai dit. Parce qu'on cite 4 frères. Même 7, parce qu'on le compte, on va dire que c'est demi-frère, si vous voulez. Et au moins 2, ça fait minimum 6. Mais j'ai cherché, et j'ai dit, mais c'est tellement évident, simple, que quand on prône la virginité, que Marie a toujours été vierge depuis toujours, il est monté au ciel, etc., il y a ce passage-là, vous voyez. Et ils ont trouvé la parade. Ben, ils le disent, mais oui, ils vont encore dans la parole de Dieu. Ils disent que dans le mot araméen, quand on dit frère, ça veut dire aussi cousin, cousin, comme sœur, cousine, etc. Ah ben non, mais vous voyez, quand on a un dogme, quand on a quelque chose dans la tête, on va chercher dans la on fait parler la Bible pour confirmer mon dogme. Oui. C'est ça l'inconvénient en fait. C'est-à-dire, on est tellement convaincu, alors d'ailleurs, à aucun moment on trouve ça dans la Bible. On va dire non. Ce qui est marqué là comme frère, en fait, ça veut dire en fait c'est le même mot qu'on utilise parce que dans la culture hébraïque, ils séparent pas les frères, les cousins. Et j'ai même allé chercher. Il faut aller chercher vraiment très loin pour confirmer cela. Et d'ailleurs, ils ajoutent autre chose. Ils disent d'ailleurs s'il avait des frères, Jésus, je vous dis comment ils justifient cela. Bien sur la croix, pourquoi il a demandé à Jean de prendre sa mère chez lui? S'il avait des frères, les frères s'occuperaient de la mère. Mais ils oublient qu'une chose. Ils oublient une chose encore une fois. Les frères se convertissent, ils ont reconnu le Seigneur comme le Messie quand? Après sa résurrection. Donc de confier sa mère à Jean qui est un de ses disciples, c'est tout à fait normal d'après, parce qu'ils ne le reconnaissaient pas encore comme Messie. Vous voyez, donc on peut rétorquer tout ça, mais il faut toujours revenir simplement à la parole de Dieu et la laisser nous parler. La connaissance humaine, riche soit-elle, peut devenir un obstacle spirituel si elle n'est pas issue et au service de la vie spirituelle. Ce contexte nous montre une réaction tragique. Ceux qui croient le mieux connaître Jésus deviennent les premiers à le rejeter. C'est une question de suffisance, mes frères et sœurs. Quand on est des fois chrétiens, on est tellement convaincus On se ferme aux échanges avec les autres, tellement qu'on veut, c'est ça. Et je regarde les autres à travers ma façon de voir rigide. Mais je suis en train de faire comme sa patrie. Ils l'ont vu grandir, ils connaissent sa famille, son métier, et c'est précisément cette familiarité apparente qui devient pour eux un filtre qui les empêche de voir au-delà. Au meilleur des cas, cette connaissance aboutit à une construction de concepts humains qu'on peut même nommer religion. La religion peut être aussi la conséquence d'une conception. Il suffit de regarder les différentes religions dans le monde, je ne vais pas toutes les nommer. Un ensemble de concepts, on a trouvé un consensus, un compromis, on l'impose, on les impose aux autres. La révélation de Jésus dérange, car elle bouleverse nos cadres mentaux, nos logiques, nos traditions, notre confort religieux. Les gens de Nazareth ne peuvent pas supporter que celui qu'ils croyaient connaître sorte du cadre dans lequel ils l'ont enfermé. Et c'est pour ça qu'il est devenu une occasion de chute pour eux. Ils se posent des questions, il les a remis en question. Ce passage est un avertissement pour nous aujourd'hui. Ce rejet du familier nous parle encore, il nous met en garde. Ne réduisons pas, mes frères et sœurs, Jésus à nos conceptions personnelles, qu'elles soient religieuses, culturelles ou philosophiques. C'est dans une communion avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation, que le Seigneur se révèle à nous par son Esprit Saint, et non l'inverse. Je peux faire parler la parole de Dieu, mais mieux. Je prie le Seigneur qu'il me révèle ce que la parole de Dieu veut me dire. Gardons-nous de faire de Jésus un produit de nos attentes, un Messie conforme à nos désirs. N'oublions pas que tous nos mots, mes frères et sœurs, ne suffisent pas pour définir Jésus. Si vous avez une définition parfaite, pour moi, elle ne l'est pas. Personne ne peut définir Jésus par les mots. Jésus se rencontre. Jésus se vit. Il est Dieu. Il est au-delà de nos logiques et de nos pensées. Approchons-nous de lui avec humilité, simplicité, dans la faiblesse et toujours dans la faiblesse et la repentance. Laissons-le se présenter à nous à travers son Esprit Saint. N'oublions pas que nous ne sommes que des êtres faibles. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Comme le dit si bien le livre d'Ésaïe. Non seulement nous devons nous approcher du Seigneur avec humilité et simplicité dans la faiblesse, mais aussi et surtout avec sérieux. J'insiste sur le mot sérieux. Être chrétien, c'est sérieux. Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas blaguer, plaisanter. On ne peut pas considérer le Seigneur comme mon copain. C'est sérieux. Il est question de vie ou de mort. Il est question de lutte spirituelle. Il faut s'approcher avec sérieux et avec un cœur repentant dans la crainte. Ne tombons pas dans le piège de la familiarité en pensant connaître Jésus au point de cesser de le chercher. Oh, j'ai pas besoin de le chercher tous les jours. Non, c'est mon oxygène. Tous les jours, je me réveille avec lui. La journée, je la passe avec lui. Et le soir, je dors avec lui. C'est cela, chercher le Seigneur. C'est ainsi, si on fait pas comme ça, si ça devient juste la familiarité, les habitudes, eh ben, on devient tiède, spirituellement aveugle, jusqu'à considérer la communion fraternelle optionnelle. Oh, venir voir mes frères et sœurs. Oh, oui, non, c'est pas obligatoire. Ah non. On peut se téléphoner, on peut faire des visios. Vous voyez le piège où on est? Les disciples cherchaient le Seigneur et ensemble étaient avec lui. Ils se retrouvaient à Béthanie, ensemble avec Jésus. Mais l'Église devient une option aujourd'hui. Malheureusement, c'est triste, ça m'attriste, mais c'est comme ça. C'est ainsi qu'on devient tiède, spirituellement aveugle. La familiarité peut engendrer la suffisance et l'aveuglement spirituel. Il est question de soif de connaissance de Jésus tant qu'on est dans ce corps et dans ce monde. Et je suis persuadé que cette soif de connaissance continuera après notre mort et notre résurrection. C'est-à-dire qu'on aura toute l'éternité pour encore connaître Jésus et le Père et l'Esprit Saint. Ça veut dire que toute l'éternité ne suffit pas pour connaître notre Dieu. Alors commençons déjà ici-bas. Dieu est infini. La véritable connaissance de Jésus est une relation vivante et transformante. Oui, j'insiste sur le mot transformante. Nous sommes appelés à être transformés par l'Esprit Saint. Nourris chaque jour par la communion avec Jésus. Cette relation transforme notre vie, nos comportements et fait jaillir des fruits spirituels visibles en nous et autour de nous. C'est cela le témoignage. J'ai pas besoin de parler, mais mon entourage voit le changement en moi, en chacun de nous. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. On interpelle par notre changement de vie. C'est comme ça que nous devenons un témoignage vivant au service de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous comprendrons alors aisément pourquoi le Seigneur a été rejeté par les siens. Là, on comprendra pourquoi. Nous n'aurons plus peur d'être un signe de contradiction parmi les nôtres. Nous ne considérerons plus le rejet qui crée la souffrance. Nous ne considérons plus le rejet comme un échec. On découvrira que c'est parfois la confirmation que le message est vrai. Si vous êtes rejetés, mes frères et sœurs, rassurez-vous. Certainement, votre message est vrai. Mes frères et sœurs, le témoignage fidèle du chrétien provoque souvent, si ce n'est toujours, provoque souvent le rejet avant de produire du fruit. Bienvenue dans la maison et dans l'école du Christ. C'est ainsi que nous devenons un témoignage vivant au service de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En marchant dans ses pas, nous comprenons pourquoi lui-même a été rejeté par les siens. Nous n'aurons plus honte ni peur d'être un signe de contradiction au sein de notre propre famille, au sein de notre propre entourage. Le rejet ne sera plus perçu comme un échec, mais comme un sceau de fidélité. Nous découvrirons que bien souvent, le rejet précède le fruit, comme je viens de le dire. Car la lumière dérange avant d'éclairer. La vérité bouscule avant de libérer. Le témoignage fidèle d'un chrétien provoque souvent la résistance, et c'est normal. Parfois, il provoque l'opposition, et parfois, il provoque le rejet, si ce n'est la persécution, au pire des cas. Mais il finit toujours par porter des fruits. Des fruits qu'on commence à déjà nous apporter, avant d'attendre qu'il porte des fruits chez les autres. Et Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Oui, il y a un prix spirituel à payer. Il est question de vie spirituelle, pas de vie humaine. Ces paroles de Jésus résonnent comme une blessure exprimée, mais aussi comme une vérité intemporelle. Celui ou celle qui est porteur de la parole de Dieu sera souvent incompris. Si vous êtes incompris, mes frères et sœurs, c'est normal. C'est pas la peine de vous en vouloir, c'est normal. Le premier qui était incompris, c'est Jésus lui-même. Oui, souvent incompris, méprisé, rejeté. Surtout par les plus proches. Non pas en raison d'un manque de pertinence, mais parce que le message qu'il incarne dérange l'ordre établi, même au niveau spirituel. Sans être prophète, et je ne parle pas au sens ministériel du terme, être chrétien, c'est être quelque part, être prophète au sens spirituel et symbolique. C'est-à-dire être témoin et messager de la parole de Dieu par le témoignage de la vie. Je rappelle que je ne parle pas du ministère prophétique, qui sont détaillés dans les lettres de Paul aux Corinthiens et aux Éphésiens. Je parle de notre rôle d'être la lumière dans l'obscurité. Quelque part, spirituellement, nous sommes appelés à être des prophètes par le témoignage de notre vie. Nous sommes appelés à être la lumière dans l'obscurité. Nous sommes appelés à interpeller notre entourage par notre vie, par la transformation de notre vie. On n'a pas besoin de toujours parler pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est le cas de plusieurs parmi nous qui ne parlent pas beaucoup. Et pourtant, leur vie est un témoignage. Le témoignage silencieux d'une vie transformée est prophétique. Ce témoignage dérange, éclaire et interroge, comme Paul le dit aux Corinthiens. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Il parle bien du témoignage de la vie quotidienne. À Nazareth, les paroles vivantes du Seigneur Jésus expriment son témoignage de vie. Un témoignage certifié par la main de Dieu, par la main du Père, certifié par des œuvres miraculeuses. Voilà la place et le rôle des miracles maintenant. Elles accompagnent les paroles du Seigneur. Ce qui doit normalement susciter la crainte et l'humilité a engendré le rejet des personnes qui prétendent pourtant connaître Jésus. Le Seigneur est en train de nous apprendre que ce sera aussi le chemin du véritable disciple qui reflète ce que Jésus lui-même a vécu. La foi authentique n'est pas toujours accueillie avec joie. Vous témoignez votre foi, mes frères et sœurs, vous ne serez pas accueillis certainement dans la plupart des occasions avec joie. Il y aura de la réticence. Acceptez-le, acceptons cette situation. Parce que c'est comme ça. Mais après, le Seigneur fait son œuvre dans les cœurs. Elle est parfois perçue comme une menace, car elle expose les cœurs, les traditions, comme c'est mon cas, s'y considère comme un reniement de mes origines, comme un reniement de mes traditions, comme un éloignement, comme un crachat que je jette sur le visage de ma famille. Mes frères et sœurs, si votre témoignage rencontre de la résistance dans vos familles, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est souvent le chemin du chrétien. Témoigner de sa foi peut devenir un terrain de souffrance, de rejet, voire de persécution affective. Jésus nous montre ici qu'il n'est pas étranger à cette douleur. Il l'a portée et vécue le premier. C'est pour ça qu'il nous comprend, il nous connaît. Il nous accompagne dans cette épreuve. Et nous arrivons à ce passage, à ce verset qui nous dit, à ces versets, il est dit, il ne put faire là aucun miracle, il s'étonnait de leur incrédulité. En général, le contexte du rejet et de l'endurcissement devient un obstacle à l'action divine. Je ne raconte rien d'étonnant. Bon. Surtout venant de personnes qui prétendent connaître Jésus au point de le limiter et le réduire à cette connaissance issue de leur propre construction humaine, qui peut être une connaissance religieuse d'ailleurs. Méfions-nous, mes frères et sœurs, de nos certitudes. Ayons une certaine humilité, et je me le dis à moi le premier. La puissance de Dieu ne manque pas. Mais là où règne le mépris, la foi s'éteint. L'incrédulité dans ce contexte n'est pas seulement une faiblesse humaine, c'est un refus spirituel. C'est comme ça qu'il faut définir. C'est un refus spirituel. Il est question de combat spirituel. Ce refus ferme les portes du cœur et limite l'impact du ministère de Jésus. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Ce verset nous interpelle, nos résistances intérieures, nos préjugés, nos traditions humaines peuvent devenir des barrières à l'action de Dieu. Je ne le dis pas seulement aux non-croyants, mais je dis aussi à nous, chrétiens. Dieu ne force pas les cœurs, il agit là où la foi, même petite, comme une graine, est prête à l'accueillir. C'est un avertissement pour nous, tous, et pour moi le premier. Si nous n'ouvrons pas notre cœur avec humilité, en restant dans la faiblesse devant le Seigneur et en faisant attention à nos certitudes, nous risquons de passer à côté de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. En conclusion, malgré le rejet, et surtout quand il y a le rejet, c'est là peut-être que le Seigneur nous appelle à témoigner de notre foi. Le passage de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6, qui fait l'objet de l'étude d'aujourd'hui, nous révèle une vérité profonde et dérangeante. Être porteur de la lumière ne garantit pas l'adhésion et l'approbation des autres, mais peut provoquer la résistance, le rejet, l'incompréhension et même le mépris. Si c'est le cas, réjouissons-nous, mes frères et sœurs, surtout parmi ceux qui pensent nous connaître. Jésus lui-même, parfait, sans péché, a été rejeté par les siens. Non pas parce qu'il avait failli, mais précisément parce qu'il incarnait la vérité dans toute sa puissance et sa simplicité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ce rejet n'a pas arrêté le Seigneur. Et c'est ça ma conclusion. Ce rejet n'a pas arrêté le Seigneur parce qu'il nous est dit à la fin, Jésus parcourait le village alentour en enseignant. Malgré le rejet, le Seigneur continue tout en enseignant. Il n'a pas cédé à l'amertume, il n'a pas cherché la reconnaissance, il a persisté dans sa mission, allant de village en village, en enseignant la parole de Dieu, parce qu'il savait que c'est cette parole qui nourrit, éclaire et transforme les cœurs comme nous. C'est cela pour moi, mes frères et sœurs, le plus grand miracle, la transformation du cœur. Et nous, chrétiens, ses disciples, Nous sommes appelés à marcher sur ces traces, avec sérieux, sans compromis, comme ses disciples le suivaient. Nous ne cherchons pas à plaire à des hommes. Et si c'est le cas, mes frères et sœurs, il faut s'en inquiéter. Nous ne cherchons pas à plaire à des hommes, c'est un prix à payer. Mais plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens et dans sa lettre aux Galates. Mes frères et sœurs, c'est une assurance pour nous, et cette situation que je vis personnellement avec ma famille, je vous le dis. Si notre témoignage est ignoré ou rejeté, ne cessons pas de témoigner et d'enseigner. Ne nous arrêtons pas. Il faut continuer à proclamer l'Évangile en parole et en témoignage de vie. Non par orgueil ou activisme religieux, mais par fidélité à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ne faisons pas de compromis. Le compromis se présente à nous comme un piège. Et c'est là qu'il faut payer le prix. Il faut tenir. Ne faisons pas de compromis qui flatte la chair, et c'est la facilité. Ne faisons pas de compromis avec la vérité. N'étouffons pas ce que l'Esprit Saint nous révèle, même si cela dérange. Le compromis est un mensonge qui se déguise subtilement en une fausse vérité. Car ce qui n'est pas dénoncé en son temps devient une racine qui corrompt l'ensemble du corps. Il en va de notre vie, mes frères et sœurs. Il en va de notre Église et de l'Église du Seigneur dans le monde entier. Le rejet est parfois le signe que le message est authentique. Si votre message est accueilli par le monde, on vous serre dans les bras, je suis d'accord avec vous, vous avez le droit de vous poser des questions. Je ne suis pas en train de créer une règle générale. Mais en général, nous ne faisons pas de l'exception à la généralité. Quand la bonne nouvelle est annoncée, le diable tremble. Et on sait que le monde est entre les mains du diable. Et s'il y a un prix à payer pour rester fidèle, alors acceptons ce prix avec humilité. Et j'ajoute, amour et persévérance. Car le juste vivra par la foi. La boucle est bouclée. C'est notre étude de jeudi. On a appris que le juste vivra par la foi. C'est un passage d'Habacuc repris par l'apôtre Paul dans ses lettres. Et cette foi ne dépend pas des circonstances. Alors si les circonstances sont joyeuses, alléluia, merci Seigneur. Si les circonstances sont difficiles, alléluia, merci Seigneur. Oui, ça n'a pas changé. Cette foi ne dépend pas des circonstances, mais d'un attachement profond, sérieux et sincère à la vérité de Dieu. Acceptons-nous de payer le prix, mes frères et sœurs? Si c'est le cas, je suis convaincu qu'on se retrouvera dans l'éternité, dans l'Église épouse que le Seigneur va venir chercher. Si vous acceptez le compromis, vous serez heureux dans ce monde. Mais peut-être, on ne se retrouvera pas dans ce corps céleste que le Seigneur viendra chercher. Je dis cela à vous, certes, à moi le premier. À moi le premier que je dois veiller à ne pas me compromettre, quitte à déplaire aux humains. Parce que ce qui nous attend est plus grand. Frères et sœurs, que notre vie porte les fruits visibles de la repentance. Que notre marche soit guidée par l'Esprit. Et que notre fidélité dans l'épreuve glorifie celui qui nous a choisis pour être ses témoins. Et je le dis avec humilité. Que le Seigneur nous aide. Amen.